Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire des assemblées. Aujourd'hui, les assemblées au-delà des nations. Après un nouvel épisode de notre feuilleton sur l'enseignement de l'histoire en France, la fabrique de l'histoire scolaire, comme tous les jeudis, eh bien nous vous parlerons de la Société des Nations, de l'ONU, de l'Organisation Internationale du Travail, avec trois historiennes et historiens qui permettront de comprendre comment sont nées, comment on fonctionne ces assemblées au-delà des États. Comment sont choisis les représentants? En quoi les procédures d'assemblée diffèrent-elles de celles des parlements nationaux? Quel rôle jouent les commissions techniques? Comment se mettent en place des processus transnationaux? Quels en sont les acteurs? Voilà les questions que nous poserons à nos trois invités, à Sandrine Cotte, elle est professeure à l'Université de Genève, spécialiste de l'histoire des institutions internationales, à Ludovic Tournès, il est également professeur à l'Université de Genève et auteur récent des États-Unis et la SDN, 1914-1946, le système international face à l'émergence d'une superpuissance, publié chez Peter Lang, et d'Olivier Ney, notre troisième invité, il est professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et il fut conseiller auprès du directeur général de l'UNESCO à propos de la lutte contre le sida. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, un nouvel épisode de notre feuilleton, la fabrique de l'histoire scolaire, conçu par Séverine Attard.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Les dates de cet empire, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Les dates de cet empire, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Sébastien Durand enseigne au lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec. Il propose ce matin à ses élèves de terminale STMG un jeu de cartes sur les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, de la guerre froide à nos jours.
Je fais un petit rappel des règles. Je vais vous donner donc les cartes, un tas de 17 cartes par groupe. Chaque groupe incarne un acteur du sujet. Ensuite, on lancera le jeu par phase chronologique successive. D'accord. À chaque phase chronologique, il faut choisir les cartes qui correspondent à votre camp. D'accord. Autrement dit, si par exemple vous incarnez les forces de gauche en Amérique latine, il faut que vous mettiez de côté les cartes justement qui incarnent à un moment donné une action, un fait dans lequel les forces de gauche en Amérique latine se sont illustrées. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, sur chaque événement, peut gagner des points. OK. Bon, il faut être réactif, car je donne seulement 3 secondes au moment où on déroule le temps pour, justement, sortir la bonne carte. C'est là qu'il faut donc avoir fait ce travail de classement. Ça marche. Donc, on va peut-être recomposer un peu les groupes rapidement. On est donc 4, 7, 9, 11, on est 15. Il y a 5 groupes, ça nous fait des groupes de 3. Ça marche. Voilà, les trois. Pour rassembler, du coup, faites un petit tour de travail. Alors, je vous donne les paquets de cartes. Donc, il est 28. Je vous donne 10 petites minutes pour faire ce premier travail de tri de sélection. D'accord? Et après, on lance la bataille. Moi, je ferai le petit tableau de comptage des points ensuite. Juste préalablement, chaque groupe lit son objectif. Ah, dans le tableau qui est ici. Alors, je prends de gauche à droite comme ça. Donc, vous êtes les États-Unis, les filles. Votre objectif, Tayana. Donc, l'objectif, endiguer le communisme en Amérique latine. On est dans la fameuse stratégie qu'on a rappelée hier, celle du containment, mise en œuvre par les États-Unis dans le monde et en particulier en Amérique latine, évidemment. Ensuite, les forces politiques de droite et les juntes dans les pays d'Amérique latine. Le mot junte. Dès qu'il y a un mot un peu complexe, un peu technique comme ça, il est dans le petit lexique du dossier. Hein. C'est vous, les gars, Mohamed. Vas-y, tu nous lis l'objectif.
Prendre ou conserver le pouvoir pour empêcher la démocratisation et maintenir le contrôle sur l'économie. Exemple, empêcher la réforme agraire.
OK, les gars, Mickaël, l'Union soviétique.
Perturber les États-Unis dans leur chasse gardée pour s'imposer dans la guerre froide.
Ok, pas de difficulté, la chasse gardée, l'expression l'a définie. Ensuite, les filles, Samia, Cuba.
Soutenir les guérillas communistes en Amérique latine pour avoir de nouveaux alliés et étendre la révolution.
Enfin, l'ADI, les forces politiques de gauche.
Prendre le pouvoir pour redistribuer plus équitablement les richesses par des réformes démocratiques ou par la révolution.
C'est clair ? Il est 31. Vous procédez au travail de classement, de sélection. Et dès que vous êtes prêt, on démarre.
Vous êtes quel groupe alors ?
Alors nous sommes les États-Unis.
Et donc alors vous avez observé les cartes, vous les avez en tête, c'est ça ?
Oui, on est en train de les mémoriser là. On les a placés par ordre chronologique.
Donc là c'est la révolution castriste, c'était ça ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Ça c'est l'alliance entre Cuba et l'URSS. Ça c'est l'échec du débarquement de la baie des cochons en 1961. Là, il y a l'embargo des États-Unis contre Cuba et la crise des missiles à Cuba. Et tous les deux, c'est en 1962. Là, il y a la guérilla des FARC en Colombie et le coup d'État militaire au Brésil. La mort du Che, je sais pas si, de Che Guevara, je crois.
Après, on a l'intervention militaire des États-Unis à Grenade en 1983. Et pour finir, le retour de la démocratie au Chili en 1989.
Bon, allez, c'est parti
alors.
Vous êtes prêtes ?
Ouais. Ouais, mais attendez, à ton avis, tout ça, c'est quoi ? C'est des cartes, ok ? Hein, mais on n'est pas en train de jouer au tarot, là. Hein, donc les images qui sont ici, il faut les observer. Les légendes qui sont là, il faut les lire parce que c'est ce qui va permettre ensuite de justifier votre choix. Sinon, vous risquez de faire un choix précipité, c'est-à-dire soit de ne pas prendre la bonne carte, soit de jouer la bonne carte au bon moment, mais sans savoir pourquoi, sans savoir justifier. Dans ce cas-là, la main passe à un autre groupe. Et dans ce cas-là, vous pouvez perdre un point. D'accord ? Je prépare le tableau de comptage.
Voilà donc pour ce nouvel épisode de notre feuilleton sur la fabrique de l'histoire scolaire conçue par Séverine Niatar, un feuilleton qui nous montre effectivement combien les méthodes d'enseignement en histoire dans les classes sont très différentes selon les professeurs. Là, en l'occurrence, c'était une sorte de jeu de rôle. Bonjour Olivier Ney.
Bonjour.
Bonjour à vous Ludovic Tournès.
Bonjour.
Et bonjour à vous Sandrine Cotte.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis Genève, depuis les studios de la RTS, nos confrères de la radio-télévision suisse qui vous accueillent en studio. On pourrait d'ailleurs commencer cette émission en imaginant, je ne sais pas, que Ludovic Tournès, spécialiste de la SDN, est un représentant d'une société philanthropique américaine dans les années 20 ou dans les années 30, qu'Olivier Ney, spécialiste en particulier du sida, mais aussi de la façon dont fonctionnent les assemblées parlementaires et en particulier celle de l'ONU pourrait jouer le rôle d'un lobbyiste auprès de l'ONU et pour vous-même, Sandrine Cotte, d'une syndicaliste dans les années 20 ou les années 30 travaillant auprès de l'Organisation internationale du travail, Sandrine Cotte.
Oui, oui, pourquoi pas.
Ça serait une façon peut-être d'apprendre à nos auditeurs la complexité aussi de ces systèmes qui, de loin, sont apparus pendant très longtemps comme relativement simples et qui, d'un seul coup, quand les historiens se penchent sur leur mode de fonctionnement, leur mode de naissance, la façon dont ils ont été inventés, eh bien, il y a tout un chatoiement de faits, de personnages, d'institutions qui sont d'ailleurs gouvernementales ou non gouvernementales qui apparaissent, Sandrine Cotte.
Oui, alors donc effectivement, en ce qui concerne l'OIT, c'est une assemblée tout à fait particulière puisque la Conférence internationale du travail qui se réunit chaque année à Genève et d'ailleurs actuellement elle est en cours de réunion et du coup ça met beaucoup d'activités dans la ville et surtout dans les transports publics. Est composée de manière tripartite, ce qui est une caractéristique de l'Organisation internationale du travail depuis son origine, 1919, c'est la plus vieille organisation du système onusien. Donc, et ça veut dire que convergent vers Genève, au moment de la Conférence internationale du travail, des délégations nationales qui sont composées donc de représentants des gouvernements, enfin de représentants des gouvernements, de représentants des syndicats, ou ce qu'à l'OIT on appelle travailleurs, et des représentants des employeurs. Il y a deux fois plus de représentants des gouvernements pour chaque pays que de représentants des travailleurs et des employeurs. Donc une assemblée tripartite, et on verra, je pense, dans la suite de l'émission, les effets que ça a sur les délibérations, sur les discussions, qui prennent de ce fait un tour un peu particulier, peut-être plus conflictuel sur certains points que dans les organisations strictement intergouvernementales comme la Société des Nations et l'ONU.
Oui, alors tout de même, il faut peut-être dire qu'avant que naissent justement ces assemblées internationales comme celle de l'OIT en 1919 dont vous parlez, Sandrine Cotte, il y a des assemblées qui sont interprofessionnelles, amicales, qui se développent auparavant. Vous dites dans un travail que vous avez mené sur ce sujet qu'il faut considérer le tournant du 19e et du 20e siècle comme étant le moment essentiel de création d'idées, de normalisation, de volonté de certains métiers, par exemple, de se retrouver à travers l'Europe et la planète tout entière parfois, pour pouvoir édicter des règles, travailler ensemble, et qu'il y a là une genèse possible, une des genèses possibles de ces organisations internationales qui naissent après la fin de la Première Guerre mondiale, Sandrine Cotte.
Alors, merci effectivement de rappeler ça. C'est vrai que les organisations internationales, et en particulier donc l'OIT dont je parle maintenant, ne naissent pas de rien. L'OIT, en fait, prend la suite de différents réseaux internationaux et d'associations internationales.
L'Association pour la protection légale
des
travailleurs.
Voilà, l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, qui s'était institutionnalisée, disons, au tournant du siècle, avec même un siège, à Bâle, dont d'ailleurs le personnel, qui n'était pas très nombreux, mais donc le personnel a été livré ensuite à l'Organisation internationale du travail, enfin au BIT, au Bureau international du travail, qui est le secrétariat de l'OIT, et d'ailleurs y compris sa bibliothèque et ses archives, ce qui est bien commode quand on veut travailler sur l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs. Donc il y avait des réseaux qui existaient, donc l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs est la plus institutionnalisée, mais il y en avait d'autres associations de ce type.
Le comité permanent des accidents du travail et des assurances sociales.
Exactement, ou la lutte contre le chômage, etc. Donc il y en avait un certain nombre. Ce qui différencie bien sûr l'AIPLT ou les autres associations de ce type de l'Organisation internationale du travail, c'est le fait que ce n'étaient pas des organisations financées par les États-nations, du moins pas directement en réalité. En fait, elles les finançaient, mais de manière détournée. Y compris d'ailleurs le Vatican qui finançait beaucoup la IPLT de manière intéressante, et qu'il n'y avait pas de représentants officiels des gouvernements de ces différents États-nations, même si les fonctionnaires de ces États-nations pouvaient effectivement se retrouver de manière, je dirais, strictement privée, en tout cas c'est ainsi qu'ils l'entendaient, à l'intérieur donc de ces associations. Donc ça fait quand même une grande différence. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces associations, elles continuent d'exister de manière concurrente à l'Organisation internationale du travail, et on voit très bien comment elles collaborent. Et c'est assez intéressant, mais peut-être ça nous emmènerait un petit peu trop loin. Ça permet en tout cas de bien suivre la distinction entre une association intergouvernementale comme l'OIT et les autres associations. Et en plus, elles se partagent un petit peu les rôles. Elles traitent pas exactement des mêmes choses.
Oui, alors Ludovic Tournès, vous êtes spécialiste entre autres justement des fondations américaines. Vous avez beaucoup travaillé sur ces fondations américaines dans l'entre-deux-guerres, mais également après la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez récemment publié un travail justement chez Peter Lang sur le rôle des États-Unis dans la SDN. On a gardé d'une idée générale, classiquement, que la SDN, donc les États-Unis avaient refusé d'y participer en tant qu'État. Donc donc pendant les années 20 et les années 30, et votre travail tente à démontrer que la place des États-Unis dans, à l'intérieur de cette société des nations, née donc après les traités de la fin de la Première Guerre mondiale, était plus importante qu'on ne le croit, en particulier par l'intermédiaire de ces mêmes fondations philanthropiques. Alors néanmoins, on a une généalogie, comme vient de le dire Sandrine Cotte, de ces assemblées internationales, mais il y a une nouveauté tout de même. Elle s'instaure et c'est l'intergouvernementalité qui se met en place avec la SDN, Ludovic Tournès.
Oui, tout à fait. Je crois que ce qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un paysage où les organisations internationales sont omniprésentes. Il suffit d'écouter la radio, de regarder la télévision, on les voit tout le temps. Mais on ne se rend pas très bien compte de la nouveauté que ça représentait début du XXe siècle, et puis surtout, évidemment, après la Première Guerre mondiale, de créer finalement, parce que pour la Société des Nations, l'idée c'était de créer un Parlement des Nations, donc avec une organisation qui serait capable ou qui aurait l'ambition de gérer les affaires mondiales.
Une multitude
niveaux.
D'organisations d'ailleurs, et parce qu'il y a tout un tas d'organisations autour de cette même SDN.
Absolument, il y avait la Société des Nations stricto sensu qui est censée être le Parlement des Nations, et puis toute une série d'organisations autour. Alors Sandrine Cotte a parlé de l'OIT évidemment, mais il y a aussi toute une série de ce qu'on appelle, enfin ce qu'on appelait à l'époque les sections techniques, qui sont en fait les ancêtres des agences spécialisées de l'ONU.
Comme l'ancêtre de l'OMS.
Par exemple, l'organisation d'hygiène qui est l'ancêtre de l'OMS. Il y avait la Commission internationale de coopération intellectuelle qui est l'ancêtre de l'UNESCO. Enfin bref, il y en a beaucoup comme ça. Et donc, l'idée d'avoir une pléiade d'organisations qui pourraient gérer les affaires mondiales à tous les niveaux, politiques, économiques, culturels, sanitaires, etc.
Mais il faut inventer un nouveau système, par exemple, simplement parlementaire, c'est-à-dire de savoir qui vote, comment sont nommés les représentants, combien sont-ils, y en a-t-il un par nation ou plusieurs, comment fonctionne le lien entre cette assemblée qui se veut représentante des nations et puis ceux qui sont en dehors, comment fonctionne cette assemblée avec ceux qui ne veulent pas y participer et les pays qui refusent d'y participer, etc., etc. On invente en marchant d'une certaine façon.
On invente absolument en marchant, et c'est vrai que, disons, l'invention au départ a été un petit peu bancale, parce que la situation internationale qui sort de la Première Guerre mondiale est très bancale, et en particulier un des problèmes fondateurs de la Société des Nations, c'est que il y avait ceux qui y étaient et ceux qui n'y étaient pas, et en particulier les vaincus de la Première Guerre mondiale en ont été exclus dès le départ, hein, l'Allemagne en particulier,
C'est pas vrai pour l'OIT, hein.
Oui, c'est pas vrai pour l'OIT effectivement, ouais. mais pour la Société des Nations on a ça, ouais. et du coup ça a pesé évidemment sur l'histoire ultérieure de la SDN. Après, il y a eu effectivement toute une série de procédures qu'il a fallu inventer, et en particulier pour la représentativité. Alors, à la Société des Nations, le principe, c'était un État, une voix, ce qui était formidable pour les petits pays qui n'existaient pas avant sur la scène internationale, ce qui était moins bien pour les grandes puissances qui, évidemment, voyaient leur puissance diminuer et qui, du coup, ont pris l'habitude de régler leurs affaires, souvent en dehors de la SDN.
Olivier Ney, vous êtes spécialiste en particulier de l'ONU, des institutions internationales. Je l'ai dit, vous avez travaillé auprès du directeur de l'UNESCO à propos de la question de la lutte contre le SIDA, cette généalogie lointaine, comme cela, de ces organisations internationales et surtout de leur mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'en tant que spécialiste de sciences politiques, puisque vous êtes spécialiste de sciences politiques, vous pouvez en dire ?
L'Organisation des Nations Unies, elle tente de réinstaller un système qui a échoué, qui était celui de la SDN après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les pays qui sont alliés contre l'Axe qui, en 1942, commencent à penser ce système. Et l'idée, c'est de produire un système qui va permettre, dans la philosophie longue pensée idéaliste qui va de Kant jusqu'à le président Woodrow Wilson, de mettre en place un système qui peut permettre d'éviter la guerre en mettant en place des mécanismes assurant une sécurité collective, c'est-à-dire à la fois des mécanismes et des institutions qui permettent de nouer des débats entre des États et aussi créer des possibilités de mettre en place des instances qui peuvent produire des normes, qui peuvent produire du droit, même si ce droit, on le sait tous, n'a aucune portée obligatoire dans les États membres. L'idée, c'est quand même de mettre en place un système qui peut produire des normes. Alors, si on veut mettre un peu de profondeur historique, il est vrai que les Nations Unies, c'est un système qui a profondément évolué depuis leur création. C'est un système qui s'est éminemment complexifié. Il y a des instances centrales, hein, qui sont l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité, mais aujourd'hui, on a de très très nombreuses organisations subsidiaires.
Vous voulez dire que là où la SDN déjà avait une multitude de commissions techniques, aujourd'hui, on a une multitude d'organisations qui sont sous le grand parapluie de l'ONU.
Alors, on a plus de 150 entités diverses. Ça va des entités centrales à des entités subsidiaires, puis des organisations spécialisées qui ont une autonomie, une indépendance de statut, puisqu'elles sont, établies par traité. Et donc, du coup, on n'a pas une assemblée dans le système des Nations Unies. On a de multiples conseils et assemblées qui vont du Conseil de sécurité de 15 membres jusqu'à l'Assemblée générale des Nations Unies qui réunit 193 États membres. Et il faut le dire, c'est une véritable institution universelle puisqu'il n'y a aucun État qui n'est pas représenté dans cette assemblée.
193 États.
Ouais, à l'exception de Taïwan qui on pourrait l'évoquer, un statut un peu particulier puisque en 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu la pleine légitimité du gouvernement de Pékin. Et donc, de fait, Taïwan n'est jamais sorti. Mais c'est une institution dont n'a jamais été expulsé aucun État. Et aucun État ne s'est retiré de cette institution. C'est quand même...
Contrairement à l'UNESCO, par exemple, où temporairement, les États se sont retirés.
Voilà. Alors, des organisations spécialisées, oui. Mais en tant que membre du système des Nations Unies, à l'exception de l'Indonésie qui s'est retirée une année suite à l'intégration de la Malaisie et l'attribution d'un siège non permanent au Conseil de sécurité pour la Malaisie, tous les États font partie de ce système. C'est quand même, il faut le dire, important parce qu'on parle souvent d'un système en crise, un système bancal, un système qui ne fonctionne pas. C'est quand même le seul système totalement universel que l'on trouve dans
l'espace international. Et si on se replonge dans l'imaginaire commun de cette organisation des Nations Unies, on trouve forcément un film d'Alfred Hitchcock, North by Northwest, dans lequel il y a une scène célèbre qui s'y déroule. Un extrait de la bande-son du film d'Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, composé évidemment par Bernard Herrmann. Cette bande-son donc nous évoque en particulier cette scène qui se déroule à l'ONU avec Cary Grant, bien évidemment le héros de ce film. Alors si nous continuons dans notre série d'émissions autour des régimes d'assemblée et de l'histoire des assemblées à débattre de ce qui se passe dans ces assemblées internationales inventées au XXe siècle, avec vous Sandrine Cotte en particulier, il faut se poser la question justement du mode de fonctionnement. Ludovic Tournès et Olivier Ney nous en ont parlé à l'instant même pour la SDN et pour l'ONU. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement ce mode de fonctionnement tripartite qui caractérise l'Organisation internationale du travail sur laquelle vous travaillez en tant qu'historienne, eh bien c'est un mode un peu particulier, peut-être un peu plus conflictuel que les autres et qui nous raconte aussi une histoire de la vision que l'on a d'une assemblée représentative autour de cette question centrale du travail.
Oui, effectivement, c'est la, l'OIT est particulière parce qu'elle est tripartite, qu'elle donne donc la parole non pas simplement aux représentants des gouvernements ou délégués des gouvernements, mais aussi à ceux des syndicats qu'on appelle les travailleurs dans le langage OIT et des employeurs. Mais je voudrais revenir d'abord sur une toute petite chose à propos de l'universalisme, qui est la question de la langue dans laquelle parlent ces assemblées, parce que c'est une question extrêmement importante. Que le choix d'une langue ou le choix de plusieurs langues dans les assemblées internationales. Ça a été l'objet, et surtout pour l'OIT, c'est une question intéressante, parce que ça a été l'objet de discussions importantes. Les deux langues officielles de l'organisation à l'origine sont le français et l'anglais. Mais très rapidement, Albert Thomas, qui est le premier directeur de l'Organisation internationale du travail, donc le socialiste français, donc fait remarquer, en particulier sous pression effectivement des représentants, des délégués allemands, l'Allemagne est membre de l'OIT dès 1919, à la différence de la Société des Nations, où elle n'entre qu'en 1926, donc que... l'allemand est la langue des travailleurs. Et là, on revient hein, sur la question du tripartisme. Mmh. Effectivement, la plupart des syndicalistes, des représentants des travailleurs, connaissent l'allemand. C'est la, alors qu'ils ne connaissent pas l'anglais et le français. Et donc, ils ne participent pas bien au débat en français et en anglais. Et du coup, l'allemand va devenir langue de travail de l'organisation parce que, justement, elle intègre les travailleurs assez dès le début des années 1920. Donc, la question des langues, la question de savoir comment on communique en assemblée est une question extrêmement importante. Et elle est particulièrement importante dans l'Organisation internationale du travail où la langue des travailleurs, finalement, est différente de la langue des employeurs qui, par ailleurs, sont mieux dotés hein, d'un point de vue de la connaissance des langues étrangères que ne le sont les travailleurs. Donc ça, c'est une première chose sur le fonctionnement d'une assemblée internationale, la question des langues. On pourrait en discuter énormément puisqu'il y a énormément de documents dont on regarde, dont on regarde l'écriture uniquement dans une langue, et quand on va se pencher sur la manière dont elle est rédigée dans une autre langue, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a de très très grandes différences, y compris entre la version anglaise et française, et on pourrait en signaler de très très nombreuses occurrences. Donc c'est une grande difficulté des organisations internationales parce que les gens finalement ne se comprennent pas complètement.
Mais certains avaient même imaginé que ces premières organisations internationales pourraient adopter par exemple l'espéranto.
L'espéranto, absolument, c'était une discussion. Ça a été une discussion très sérieuse. Il me semble me souvenir 23 ou 24 que l'espéranto devienne la langue des organisations internationales. Ça a été abandonné assez rapidement, mais c'était effectivement une solution qui aurait été possible. Et Genève a beaucoup poussé. C'est même devenu d'ailleurs une langue pendant une ou deux années dans l'école à Genève. Une langue obligatoire. Donc voilà. Alors pour revenir sur le fonctionnement de l'assemblée tripartite, la Conférence internationale du travail qu'on appelle parfois un peu, de manière un petit peu excessive, le Parlement international du travail. Donc depuis 1919. Donc effectivement, c'est une assemblée qui fonctionne en donnant la parole aux délégués des gouvernements, des syndicats, donc travailleurs, et des syndicats employeurs. Et ça conduit donc à des dissensions peut-être un peu plus fortes, ou du moins d'une nature différente de celles que l'on peut auxquelles on assiste dans les organisations purement intergouvernementales. Et je voudrais en citer juste un exemple parce que c'est un exemple extrêmement parlant à mon avis et que on connaît mal. Donc, ce que fait l'Organisation internationale du travail dans les 15 premières années de son existence, donc entre 1919 et jusqu'au début des années 30, c'est essentiellement donc de voter des conventions, enfin de discuter des conventions internationales du travail, donc des mesures protectrices qui constituent des normes internationales. Donc la première, c'est la journée de 8 heures, et puis après, il y a tout un tas de conventions sur les assurances sociales qui vont devenir des conventions de sécurité sociale. Mais les assemblées sont aussi des lieux où on discute de tout un tas d'autres choses. Et par exemple, en 1935, Eh bien, le délégué travailleur hollandais fait un très long discours qui dénonce la condition des travailleurs juifs en Allemagne, dans l'Allemagne nazie à l'époque. Les nazis se sont retirés des organisations internationales dès 1933. Un discours de dénonciation. Et l'Assemblée est aussi effectivement un lieu où on prend la parole pour dénoncer les conditions qui sont faites à certains travailleurs. Alors, de manière très intéressante, il y a donc une résolution qui est mise aux voix. Les travailleurs votent unanimement donc pour condamner l'Allemagne nazie, mais les employeurs et les gouvernements ne le font pas. Ouais. Donc la résolution finalement ne va pas passer à l'Organisation internationale du travail. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que là effectivement les intérêts des uns et des autres sont divergents sur une résolution qui pourrait pourtant apparaître relativement évidente, de condamnation de la manière dont sont traités les travailleurs juifs en Allemagne, eh bien, il n'y a pas le vote des trois groupes unanimement.
Ludovic Tournès.
Oui, je voulais juste revenir sur le point de la langue qui était extrêmement intéressant par rapport à l'espéranto. On a effectivement proposé que l'espéranto soit utilisé comme langue de travail et ça a été torpillé à la fois par les Français et par les Anglais qui avaient évidemment pas du tout envie d'abandonner leur monopole linguistique et politique aussi évidemment sur l'organisation. Donc ça c'est un aspect intéressant. Et puis sur la question des condamnations, effectivement, là on a à la SDN aussi ce processus en particulier avec l'Allemagne et puis le Japon aussi, quand le Japon envahit la Mandchourie. On a une société des nations qui va condamner le Japon. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le Lotus Bleu, là, dans Tintin. Mais ce sont des condamnations de pure forme qui aboutissent.
Et néanmoins, ça va avoir un rôle, cette condamnation du Japon en 1931. C'est que cela va pousser les États-Unis, qui étaient restés plus ou moins à la porte, enfin formellement en tous les cas, de cette société des nations, à y pénétrer un peu plus profondément, pourrait-on dire.
En tout cas, Ils se posent la question parce que effectivement ils se rendent bien compte qu'il se passe des choses et que voilà, ils ne peuvent pas rester en dehors indéfiniment, mais ils ne franchiront pas le pas d'y rentrer, disons,
formellement. Olivier Ney.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure la question de l'organisation et du fonctionnement de ces assemblées. Alors on a bien souvent une image, j'allais dire assez réduite, de leur fonctionnement, qui sont les moments des assemblées plénières dans lesquelles l'ensemble des délégations d'État se réunissent pour pouvoir délibérer, mais ça représente un moment relativement restreint dans la vie.
C'est un peu la même chose que dans les assemblées nationales ou le Parlement national, où on dit que le travail en commission compte souvent beaucoup pour le vote de la loi qui se déroule, lui, en assemblée plénière.
Alors, les assemblées plénières, c'est évident, c'est un moment important. C'est un grand théâtre politique dans lequel les chefs d'État, en particulier à l'Assemblée générale des Nations Unies, viennent pour exposer leur vision des relations internationales et leur conception d'un certain nombre de sujets qui peuvent les concerner particulièrement.
Et un discours à l'ONU d'un chef d'État n'est jamais totalement anodin. Il en fait un lieu de la représentation de sa parole, de son pays et aussi de ses volontés politiques.
Oui, il y a la succession des assemblées générales des Nations Unies, c'est une succession de grands moments historiques. 1960, c'est un très bon cru. On a eu à la fois un discours de Fidel Castro de 4h30 destiné à dénoncer la finance internationale et le capitalisme mondialisé et l'impérialisme nord-américain, suivi le lendemain ou le surlendemain du fameux discours de Gorbatchev.
De Khrouchtchev,
oui. Dans lequel
il sort sa chaussure.
Voilà, il sort sa chaussure pour répondre à une invective d'un représentant, je crois c'est du gouvernement philippin, qui critique la position des Russes. Donc bon, c'est un grand théâtre politique, mais il se passe plein d'autres choses. Il y a des commissions, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, on a deux organes subsidiaires qui sont le Conseil des droits de l'homme et puis la Commission du droit international. Là, ce sont des organes qui fonctionnent, j'allais dire, en relative indépendance, mais qui produisent du droit, avec le premier qui est très décrié, évidemment, qui, pour des raisons qu'on connaît, notamment récemment...
Avec la nomination
de l'Arabie Saoudite.
D'un membre de l'Arabie Saoudite.
Deux jours avant qu'une condamnation soit prononcée, condamnant un individu à être décapité, puis crucifié, et laissé à la vue du public, jusqu'à que ses chairs pourrissent. Bon, voilà. Pour revenir au fonctionnement ordinaire de l'Assemblée, on a des fonctions, alors une fonction politique, mais on a des fonctions délibératives qui étaient extrêmement importantes, l'adoption de résolutions. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 15 000 résolutions depuis sa naissance, une moyenne de 220 par an. C'est quand même assez considérable.
Oui, sur ce point d'ailleurs, Ludovic Tournès, vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait donc dans l'ancêtre de l'ONU à la SDN, les commissions techniques. Et vous êtes beaucoup intéressé justement en tant que spécialiste des fondations américaines à la façon dont les fondations américaines, les grandes fondations, que ce soit la Carnegie ou la Rockefeller Foundation, ont, disons, usé de ces commissions techniques pour pallier l'absence des États-Unis en tant que gouvernement au sein de l'Assemblée générale de la SDN et comment ils ont été les instruments, d'abord pour tenter de convaincre le gouvernement américain de s'investir plus, mais aussi pour pouvoir faire avancer la cause de la paix, la cause de l'hygiène, des causes qui tenaient à cœur aux fondateurs américains de ces institutions non gouvernementales, pourrait-on dire.
Tout à fait. C'était aussi pour faire avancer la cause des États-Unis.
Ça, c'est tout à fait clair. Ça n'est jamais anodin.
Alors, c'est vrai que c'est intéressant quand on regarde la complexité de l'organisation internationale. Il y a évidemment le rez-de-chaussée, si je puis dire, qui est l'Assemblée générale le plus visible, où là, on voit les États membres et les États non membres. Et puis, quand on regarde ce qui se passe en dessous ou à côté, qui est effectivement ce monde des sections techniques, dont futures agences spécialisées, le paysage est un petit peu différent. Et c'est ce qui me permet, moi, de dire que les États-Unis, pour moi, sont membres de la SDN. C'est que tout en n'étant pas officiellement membre, en réalité, dans les commissions techniques, ça se passe tout à fait différemment parce que les commissions techniques ne sont pas des représentants des États, ce sont des experts. Et donc, les commissions techniques de la SDN, elles ont cette particularité d'être ouvertes aux États non membres. Et d'ailleurs, c'était une stratégie, en fait, des fondateurs de la SDN pour faire entrer les États-Unis malgré tout. Mmh. Et donc, quand on regarde ces commissions techniques, que ce soit les commissions dans le domaine de l'hygiène, des différentes maladies, les commissions liées aux questions intellectuelles, aux questions économiques, financières, les États-Unis sont présents partout. Et non seulement ils sont présents partout, mais ils sont même les plus nombreux dans ces commissions, parce qu'en fait, ils arrivent souvent en disant « ben oui, finalement, on connaît pas très bien le dossier, donc faudrait peut-être qu'on se fasse accompagner d'un expert, etc. » Et finalement, ils ont une stratégie qui est très au point, qui fait qu'ils sont plus nombreux que les autres dans les commissions. Et à partir du moment où ces commissions techniques, finalement, elles deviennent le cœur du travail de la SDN à partir des années 30, où les activités politiques de la SDN sont discréditées, finalement... Les États-Unis, via effectivement ces experts et via ces financements philanthropiques, aboutissent à avoir une influence extrêmement importante sur la société des nations.
Alors Sandrine Cotte, il faudrait peut-être en venir aujourd'hui dans notre discussion sur ces assemblées que sont les assemblées internationales nées au XXe siècle, aussi bien l'OIT, on l'a dit, ou toutes les agences de l'ONU ou encore la SDN, à cette discussion entre historiens, pourrait-on dire, qui a été trop longtemps dit Ludovic Tournès, et vous le dites également, marqué par une approche statocentrée, c'est-à-dire la question de l'État au sein de ces institutions, sur une autre question qui est comment on travaille en historien sur le transnational, c'est-à-dire sur ce qui se crée à l'intérieur de ces institutions, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on est présent en permanence dans un lieu ou de façon temporaire dans un lieu dans lequel on rencontre les représentants des autres États, lorsqu'il y a des fonctionnaires qui travaille à l'intérieur de ces institutions, lorsqu'il y a des décisions à prendre, eh bien, progressivement, on est à la fois certainement membre de son propre pays, mais on est aussi un peu membre d'une société internationale ou internationalisée qui est cette société de ceux qui travaillent pour ces institutions, Sandrine Cotte.
Oui, c'est bien sûr une excellente question. En fait, les organisations internationales, pour les historiens, sont constitués un observatoire, une espèce de laboratoire de ce qu'on pourrait appeler les dynamiques de l'internationalisation, c'est-à-dire comment circulent les formes d'expertise, donc ce dont Ludovic Tournès vient de parler à travers les commissions techniques, les organisations techniques de la Société des Nations. Donc l'Organisation internationale du travail est très intéressante pour ça, parce que justement, donc par ce fonctionnement donc tripartite, elle permet des rencontres qui n'auraient pas lieu sinon, et surtout pour les délégués travailleurs. Mmh. La dynamique de l'internationalisation, ça se fait beaucoup dans les commissions d'experts. Et là, il faut bien distinguer entre les fonctionnaires de l'Organisation internationale du travail, qui sont eux-mêmes des experts, et puis les commissions d'experts qu'ils appellent. Et là, comme pour la Société des Nations, on s'aperçoit que certaines nations qui sont un peu invisibles, de manière, si on regarde l'organisation, peuvent prendre des rôles assez importants dans certaines commissions d'experts. experts.
Vous dites que la Belgique, la Suisse, la Hollande, des petits États ont pu avoir des importants comme moteur de l'internationalisation.
Voilà, les petits États peuvent jouer un rôle important, mais aussi des États qui sont marginalisés sur la scène internationale. Bon, je pense à l'Allemagne, bien sûr, pour les commissions des assurances sociales, qui jouent un rôle disproportionné par rapport à son poids politique à l'international, ou les experts allemands, ce qui n'est pas l'Allemagne, évidemment, ou par exemple les experts italiens pour la commission d'hygiène qui a été, pour tout ce qui concerne l'hygiène, qui a été étudiée par Isabelle Morelli-Spinet, ou Carozzi, donc, qui est un Italien, et d'ailleurs, y compris pendant la période fasciste, c'est une chose intéressante aussi à observer, joue un rôle important. Donc on a là, mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que c'est pas parce qu'ils sont allemands, italiens, hollandais, suisses, etc., qu'ils sont les représentants de leur nation. Ils viennent avec un savoir, et qui est un savoir que l'Organisation internationale du travail, ou n'importe quelle organisation internationale, contribue d'une certaine manière à internationaliser. Via cette organisation, ce savoir est internationalisé et dénationalisé. C'est-à-dire qu'il n'appartient plus à un État-nation, mais il participe en fait d'une expertise internationale, d'un savoir commun. Ouais. Bon, je l'ai étudié en particulier pour les assurances sociales allemandes, qui sont d'une certaine manière internationalisées via l'Organisation internationale du travail et qui ne sont plus strictement allemandes, d'ailleurs au point même que... Au fond, tout le monde adopte, une grande partie des États-nations adopte cette manière de faire sans savoir même ou sans s'en référer directement à l'Allemagne.
Voilà. Olivier Ney, sur ce point et sur cette ambiguïté, on sait aujourd'hui par exemple que les tenants de la démocratie directe sont souvent très critiques vis-à-vis de cette idée de la délégation de pouvoir à un député, par exemple, qui ensuite fera ce qu'il veut de leur vote, d'une certaine façon, et donc de cette idée qu'il faut surveiller les gouvernants, surveiller les représentants. En l'occurrence, qu'en est-il dans ces institutions internationales, en particulier à l'ONU? Évidemment, c'est un peu différent, puisque quand on vote à l'Assemblée de l'ONU permanente, on est généralement le représentant de la politique de son État. Il y a peu de cas où on est distinct de la politique de son propre État.
Oui, la particularité de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas pour une autre assemblée supranationale qui est le Parlement européen, c'est que les représentants au sein de cette assemblée sont des représentants d'État. Ils représentent, ils sont pour la plupart des diplomates. Ils ne sont pas élus par un corps électoral. Donc c'est vrai que la redevabilité qu'ils ont envers ceux qui les dirigent, c'est une redevabilité diplomatique, politique envers des institutions elles-mêmes au niveau national. Responsable devant les parlements. Mais c'est vrai que ça modifie très sensiblement les comportements et les attitudes à l'intérieur, puisque les diplomates qui sont présents dans ces assemblées ont la rationalité froide des États, c'est-à-dire qu'ils sont là pour appliquer des politiques d'État. D'ailleurs, une grande différence aussi, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes qui siègent. Contrairement aux assemblées où il y a des élus, où il y a une certaine continuité dans les grandes Assemblée générale, vous avez des missions diplomatiques et des missions permanentes, et puis des délégations qui viennent siéger. Et dans les délégations, vous avez une diversité de représentants qui siègent à tour de rôle en fonction des obligations des uns et des autres. Mais ce que je voulais dire, vraiment réagir par rapport à ce que disaient Ludovic Tournès et Sandrine Cotte tout à l'heure sur le fait que les organisations internationales ont toujours été perméables aux intérêts privés, à la philanthropie internationale, aux grandes firmes, aux acteurs sociaux.
Le rôle de Bill Gates et de sa fondation, par exemple, aujourd'hui, ça n'est pas anodin.
C'est le deuxième contributeur net de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut le dire. Bien devant l'ensemble des pays de l'Union européenne. Juste après les États-Unis d'Amérique. On voit vraiment que dans leur fonctionnement, ce sont des institutions qui sont ouvertes et qui ne sont pas exclusivement intergouvernementales, mais sont en permanence pénétrées par des logiques externes.
Et Ludovic Tournès ?
Oui, non, je voulais juste ajouter, de même que dans l'entre-deux-guerres, la Fondation Rockefeller était la première contributrice de l'organisation d'hygiène.
Oui, donc c'est une sorte de politique qui se continue au-delà des années, au-delà même du siècle en l'occurrence. Alors, Ludovic Tournais, sur ces questions, effectivement, qui étaient abordées à la fois par Olivier Ney et par Sandrine Cotte, sur la création, justement, de cette société internationale, parce que c'est aussi une société internationale qui travaille et qui navigue autour de ces grandes organisations internationales. Là, c'est un travail d'historien extrêmement contemporain. Beaucoup d'historiens s'intéressent, justement, à ces interactions, à ces manières dont des représentants, soit de leur pays, soit de leur organisation, finissent par devenir une sorte de société internationale travaillant avec des normes qui leur sont propres, qui sont peut-être parfois un peu détachées des États qui, au départ, ont voulu leur détachement dans ces organisations internationales.
Ah oui, tout à fait. Ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde l'histoire de la SDN, de l'ONU, on voit bien comment naît une petite société internationale représentée d'abord par les fonctionnaires internationaux qui arrivent de leur pays, qui sont détachés, qui viennent à Genève, pas forcément par choix d'ailleurs, parce qu'il faut bien voir qu'au début, dans les années d'entre-deux-guerres, la carrière dans la Société des Nations, c'était pas très valorisant. Hein. On était là parce que il y avait pas, c'était un peu par défaut. Et puis c'est petit à petit que ça a acquis un certain prestige, mais au départ c'était pas le cas. Et puis on a des gens donc qui viennent de pays extrêmement différents et qui vont créer petit à petit une culture commune de l'internationalisme. Se penser au-delà de leurs États pour représenter les intérêts de l'ensemble de la planète.
Alors, votre travail montre bien effectivement l'ambiguïté de ces fondations philanthropiques américaines, Ludovic Tournais, parce que comment cela se passe-t-il quand il y a tension entre un président de fondation américaine qui a sa vision propre de l'action des États-Unis qu'il faudrait mener dans le domaine, je ne sais, de l'hygiène internationale, par exemple, et puis une présidence qui n'est pas d'accord. Comment cela se passe-t-il? Ça doit être un peu complexe. Il y a les uns sont plus en avance sur certains dossiers et d'autres sont plus en retard. Les uns voudraient refermer le dossier, d'autres voudraient le voir poursuivre. Comment ça se passe?
Alors, c'est là justement qu'on rejoint la question du transnational et des dynamiques qu'on évoquait tout à l'heure. C'est que, en fait, si on regarde les tâches politiques, les tâches intergouvernementales, les choses sont simples. Les États ont une position et la défendent, etc. Quand on regarde au niveau des commissions techniques, où là, on a des agents non gouvernementaux, c'est très différent parce que, précisément, là, à propos de l'hygiène, on n'a pas justement la Fondation Rockefeller qui va chercher à imposer son point de vue sur un certain nombre de choses. Bon, c'est sûr qu'elle finance beaucoup les activités sanitaires. Et donc, du coup, elle a son mot à dire et elle participe non seulement financièrement, mais intellectuellement.
2 millions de dollars jusqu'en 1937.
Absolument, c'est énorme. Mais en même temps, on a une co-construction de ces activités sanitaires avec les gens de la section d'hygiène qui, finalement, sont souvent assez d'accord avec la Fondation Rockefeller sur un certain nombre de points, ou alors ne sont pas d'accord. Mais la confrontation est plus subtile qu'une confrontation d'État à État. D'autant plus que la Fondation Rockefeller n'a pas le même point de vue que le gouvernement américain sur la question. Donc quand on arrive justement à ce niveau non gouvernemental, les choses sont beaucoup plus subtiles et on voit bien les acteurs interagir.
Olivier Ney, puis Sandrine Cotte.
Oui, on voit que le phénomène est ancien, mais je crois que c'est un des grands défis contemporains. C'est l'adaptation de ces organisations intergouvernementales à une dynamique de mondialisation qui est marquée par l'intensification des échanges, mais aussi par la montée en puissance d'acteurs
civils
internationaux.
La société civile.
Oui, et aussi des acteurs économiques qui sont extrêmement puissants, qui ont des budgets qui sont largement supérieurs
aux États,
à certains États, et au budget des organisations internationales elles-mêmes. Et elles subissent actuellement un risque qui est celui d'un grand déclassement. On a aujourd'hui dans le système international une prolifération d'instances de régulation, d'instances de délibératives qui ont des formes contractualisées, partenariales. Ça passe par des partenariats publics-privés, mais parfois c'est carrément dans le domaine du marché. Et aujourd'hui, c'est dispositifs intergouvernementaux, bien que ouverts, évidemment, à des acteurs extérieurs, sont eux-mêmes, dans le système international, des acteurs qui deviennent des partenaires et non plus des lieux centraux de la délibération. On prend l'exemple simplement de la production des normes. Le rôle de ces institutions, c'est de produire des instruments juridiques ou techniques susceptibles d'éclairer. Et l'OIT a ce rôle-là, par exemple, d'aider les pays à modifier leur législation du travail pour qu'elle soit plus juste, pour protéger les droits économiques et sociaux des travailleurs. Mais aujourd'hui, on a des organisations comme la Fair Labor Association, où on construit des normes à l'extérieur de l'OIT. Les grandes entreprises ont des codes de conduite. Donc la production des normes échappe échappe pour partie à ces organisations internationales.
C'est Et vous allez conclure sur ce point, Sandrine Cotte, notre émission d'aujourd'hui donc consacrée à ces questions des assemblées supranationales.
Oui, effectivement, la production des normes du travail a tendance à échapper à l'Organisation internationale du travail. Ça, c'est vrai déjà depuis, je dirais, les années 1980. Mm-hmm. Pas simplement parce qu'il y a le rôle des multinationales et de toute ce nouveau paternalisme des multinationales sous forme de la responsabilité sociale des entreprises, mm-hmm. mais aussi parce qu'il y a en fait, il faut pas l'oublier, des concurrents importante entre les différentes organisations internationales qui représentent derrière lesquelles il y a des visions du monde qui sont différentes. Et par exemple, la Banque mondiale ou l'OCDE s'est emparée en fait de thématiques qui étaient auparavant les thématiques réservées de l'Organisation internationale du travail et s'en est emparée en diffusant des modèles de résolution de la question sociale ou des modèles de gestion par exemple des assurances sociales, très différentes de celles qui étaient promues par l'Organisation internationale du travail. Il ne faut pas imaginer que la société mondiale, si on peut dire, est une société qui n'est pas clivée politiquement.
Oui, hein,
il y a bien sûr, l'Organisation internationale du travail représente... au sein même de l'organisation, d'ailleurs, il y a des diversités, des sensibilités diverses, mais je dirais une gestion sociale libérale de la question sociale, ou social-démocrate, suivant les moments. Ou chrétienne sociale aussi à d'autres moments, évidemment la Banque mondiale ou l'OCDE promeuvent des modèles qui sont des modèles plus directement libéraux ou néolibéraux pour résoudre ces questions-là. Et donc il y a privé et intergouvernemental, mais il y a aussi au sein de cette société mondiale des sensibilités qui sont des sensibilités différentes. Et à cet égard, bien sûr, l'Organisation internationale du travail dans le monde d'aujourd'hui est marginalisé, doublement marginalisé, on pourrait dire, même si, bon, on peut espérer, en tout cas c'est ce qu'espèrent les gens, les fonctionnaires de cette organisation, que les choses vont changer. Je voudrais juste terminer quand même
très
sur une note un peu positive,
allez.
Qui est de dire que ces assemblées sont aussi des lieux où il se passe parfois des choses qui sont des choses importantes et qui ne sont pas simplement symboliques. Je rappelle qu'en 1981, par exemple, c'est Lech Walesa qui représente les travailleurs polonais à l'Organisation internationale du travail. Et ça a eu des effets qui étaient des effets importants. Je veux rappeler aussi que dans cette même assemblée, cette conférence internationale du travail, eh bien, il y a eu une condamnation de l'apartheid en 1964 et que ça aussi, ça a eu des effets importants. Voilà.
Merci beaucoup Sandrine Cotte et nous remercions évidemment nos confrères de la radio-télévision suisse qui vous ont accueillis dans leur studio à Genève où vous enseignez. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Genève, spécialiste de l'histoire des institutions internationales. Ludovic Tournès est également professeur à l'Université de Genève. Il est auteur des États-Unis et la SDN, 1914-1946, au système international face à l'émergence d'une superpuissance, publié chez Peter Lang et Olivier Ney. Eh bien, vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus pour conclure cette série consacrée à l'histoire des assemblées dans la fabrique de l'histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Demain, nous aurons le plaisir de recevoir l'écrivain et romancier Arturo Pérez Reverte qui écrit beaucoup de romans historiques et en particulier le dernier qu'il vient de faire paraître en France est consacré à l'aventure de l'encyclopédie vue d'Espagne.